Formation biblique de disciples. Cours numéro 17. Le retour de Jésus. Section 3. Le millénium. Règne de Christ. La Jérusalem céleste. Première partie, le millénium. Le règne de Christ. Grand 1. Sachons discerner les signes de son retour. Dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église, les théologiens n'ont jamais été en accord concernant la venue de Jésus et le commencement de son règne sur terre. Il existe donc que toutes sortes d'interprétations des récits prophétiques concernant l'avènement du Fils de l'homme. Nous trouvons ces récits eschatologiques chez les prophètes du Premier Testament dans les paroles de Jésus, Matthieu 24 et 25 et Luc 21, et dans les écrits des apôtres du Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens 2. Cependant, les paroles de Jésus ont été claires et peu de docteurs de la parole contestent que nous ne connaîtrons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. En Matthieu 24, verset 36, il est écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est pourquoi tout le Nouveau Testament nous exhorte à veiller afin d'être prêts à tout moment pour être enlevés en un instant pour aller à la rencontre du Seigneur. Car il nous faut être prêts pour entrer dans la salle des noces de l'agneau. Voir 1 Thessaloniciens 4. Aussi, à l'image de toutes les générations passées, et plus encore aujourd'hui, il est vital que nous ayons une mentalité de veilleur qui ne cesse de guetter à la fin de la nuit les tout premiers rayons du soleil. Matthieu 25, verset 13, nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La Bible fut écrite pour notre instruction et elle est suffisamment précise et claire pour nous révéler les signes prophétiques qui annoncent le retour de Jésus. Mais restons humbles dans notre interprétation car le sujet est complexe et les enjeux énormes aussi. Veillons attentivement à ne pas aller au-delà de ce qu'affirment les Écritures. Cependant, Jésus lui-même nous encourage à discerner les signes de sa venue, et au fur et à mesure que ces signes approchent et se manifestent, Jésus nous invite à lever la tête car notre délivrance approche. Et celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Luc 21, versets 19 et 36, par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans le Premier Testament, les prophètes ont eux-mêmes cherché à discerner ces signes pour comprendre à quel moment le Messie viendrait. 1 Pierre 1, versets 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Plus personne aujourd'hui ne peut contester au regard des nombreux signes prophétiques annoncés dans les Écritures que le retour de Jésus est imminent, comme il peut tout aussi bien se produire dans quelques brèves décennies. Mais comme pour la Odyssée, une grande partie de l'Église est endormie et tiède. Pourtant, nous voyons déjà se lever partout dans le monde de vrais groupes de disciples de Jésus qui se préparent dans une consécration profonde et qui entrent fermement dans une intercession efficace pour lever la moisson finale comme les Écritures nous l'ont annoncé. Si donc les théologiens et les prophètes s'accordent pour affirmer l'impressionnante proximité du retour de Jésus, au vu des interprétations parfois contradictoires, nous remarquons, à travers l'histoire de l'Église, trois grands courants théologiques qui interprètent, chacun différemment, la venue et le règne de Jésus à la fin du temps des nations. Grand 2, la renaissance du mouvement prophétique. Cependant, dans ces temps de la fin, la connaissance a considérablement augmenté. Daniel 12, verset 4 « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Et un certain nombre de fausses interprétations se sont effondrées, comme par exemple la théologie de la substitution, Même s'il reste encore, à l'image des pharisiens à l'époque de Jésus, des docteurs qui refusent obstinément à reconnaître l'évidence de l'accomplissement de certaines prophéties bibliques. C'est précisément grâce à l'accomplissement de ces prophéties dans notre génération qu'aujourd'hui l'interprétation des événements eschatologiques s'aligne de plus en plus avec les événements chronologiques des temps de la fin qui nous sont décrits dans la Bible. Depuis la renaissance de l'État hébreu, le courant prophétique qui se veut être dans la mouvance du prophète Élie a considérablement pris de l'ampleur dans les milieux réveillés. En s'appuyant sur la Bible, il encourage le peuple de Dieu et l'aide à discerner et interpréter étape après étape les signes prophétiques qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Même si l'adversaire fait de son mieux pour y mettre la plus grande confusion, de plus en plus d'enfants de Dieu aujourd'hui, qui se tiennent régulièrement dans la prière, reçoivent aussi des songes et des visions qui révèlent les temps que nous vivons. En Joël 2, verset 28, Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ces songes et ces visions vont tous ensemble dans la même direction et viennent d'une part confirmer la Bible et d'autre part nous tracer un chemin qui prépare le retour de Jésus en gloire. Grand 3. Trois interprétations sur le règne de Jésus. Notre objectif dans cet exposé est d'expliquer ces trois courants afin de démontrer les pièges graves qui se cachent derrière deux d'entre eux et pour comprendre que l'Église se trouve dès à présent devant un choix qui va déterminer de quelle manière elle va préparer et attendre le retour de Jésus. Si à travers ces courants nous ne décryptons pas les fausses interprétations de la Bible lors du jugement qui vient, une partie de l'Église, même évangélique, risque fort de se retrouver gravement compromise avec les nations rebelles. Avec l'aide du Saint-Esprit et de la révélation prophétique, pour tous ceux qui attendent ardemment la venue de Jésus, il est aujourd'hui possible de comprendre la chronologie des derniers événements prophétiques si nous interprétons correctement la parole de Dieu. Mais gardons les yeux fixés sur le Seigneur de la prophétie en train de venir et non sur la prophétie elle-même, quand bien même celle-ci nourrit fortement notre foi et notre espérance. Le principal sujet de discorde entre les docteurs de la parole fut de tout temps ce qui tourne autour des 1000 ans du règne de Jésus. Chaque interprétation de la Bible sur la question des 1000 ans du règne de Jésus met en lumière la grille d'interprétation de lecture que les théologiens utilisent et par conséquent cela détermine de quelle manière nous allons nous positionner dans la foi et l'obéissance à la parole pour la venue du règne de Jésus. L'interprétation des 1000 ans du règne de Jésus dans les Écritures est un sujet bien trop important aujourd'hui pour que nous puissions l'ignorer. Et l'ignorer nous conduit à accepter à notre insu des grilles d'interprétation qui sont bien éloignées de la pensée hébraïque dans laquelle la Bible tout entière a été écrite. Merci au Seigneur de gloire de nous avoir donné la puissance du Saint-Esprit pour être capable de recevoir la pensée de Dieu dans les Écritures au moyen de l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, verset 17, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Dans Apocalypse 20, l'apôtre Jean nous parle du millénium, qui est une période de 1000 ans où Jésus va régner sur la terre avec ses élus. Pendant ces 1000 ans, Satan sera enchaîné et ne pourra plus séduire les nations. Petit 1, pour les tenants du mouvement millénariste, que l'on appelle aussi les prémillénaristes. Lorsque le temps des nations arrivera à sa fin, Jésus reviendra sur terre pour juger les nations. C'est alors que commencera son règne de 1000 ans, qui est un règne de justice et de paix, après avoir vaincu Satan. Parmi les pères de l'Église les plus connus qui défendent cette interprétation des Écritures, nous avons Papias, évêque de Hiérapolis au début du IIe siècle, puis Saint Justin, martyr à Rome vers 165, puis Irénée, évêque de Lyon, mort en 208, Tertullien, mort en 222, et le grand écrivain Lactance, mort en 222. Dans les écrits des pères de l'Église des premiers siècles, le millénarisme fut l'interprétation officielle des Écritures sur le retour de Jésus. Petit 2. Saint Augustin et le mouvement amillénariste. À partir du 5e siècle, le millénarisme va considérablement reculer. Saint Augustin, grand théologien de l'Église au 5e siècle, y a largement contribué en donnant une interprétation symbolique de l'Apocalypse et en enseignant que les 1000 ans ont commencé à partir de l'incarnation du Christ, c'est-à-dire dans sa première venue, et vont durer pendant le règne spirituel de l'Église sur terre. À la fin du règne de l'Église viendra le jugement dernier et la révélation de la Jérusalem céleste. C'est alors que naît l'interprétation amillénariste. Cela signifie que le royaume de Dieu ne viendra pas physiquement sur terre. Le règne de Christ sur terre est uniquement spirituel, affirme saint Augustin. Les 2000 ans de l'Église incarnent donc le millénium. Saint Augustin reprend la doctrine de la substitution d'Origène, et bien d'autres après lui, au IIe siècle, pour réaffirmer que les Juifs sont punis d'avoir refusé le Christ, par conséquent sont dispersés sur la surface de la terre et l'Église devient le nouveau Israël, un Israël spirituel, en opposition avec l'Israël charnel de l'Ancien Testament. Le retour des Juifs sur leur terre serait inconcevable pour saint Augustin, sinon, comme l'affirment les Augustiniens d'aujourd'hui, ce ne serait qu'un accident épisodique de l'histoire moderne. Cette interprétation des Écritures, érigée en doctrine officielle, fit des ravages, en justifiant tous les pogroms de l'Occident dans son histoire. En effet, durant 15 siècles et aujourd'hui encore, cette fausse interprétation biblique sur le retour de Jésus a influencé considérablement l'Église catholique romaine, qu'il a officiellement adoptée. Au XVIe siècle, les réformateurs n'ont pas remis en question l'interprétation amillénariste de saint Augustin. Et par conséquent, dans les siècles qui ont suivi, les protestants, c'est-à-dire les réformés et les luthériens, sont devenus amillénaristes pour la plupart d'entre eux, ainsi que plusieurs églises évangéliques. Cela explique en grande partie pourquoi beaucoup trop de chrétiens manifestent encore aujourd'hui un comportement antisémite ou au mieux sont indifférents à l'égard du peuple juif. Comprenons que saint Augustin n'a pas échappé à l'influence de la culture grecque de son temps. Une culture qui avait développé au cours des siècles précédents un système de pensée philosophique fondé sur la méthode d'interprétation allégorique. Cette méthode de lecture avait pour principe d'interpréter symboliquement le texte pour le spiritualiser ensuite. Au 5e siècle, dans un empire romain christianisé, constantinien et par conséquent antisémite, la pensée grecque était bien trop tentante pour éloigner toute confusion entre la nouvelle religion de l'Empire et la religion rivale et exécrée des Juifs. Nous étions donc bien loin de la pensée hébraïque et du texte de Romains 11 de l'apôtre Paul, que d'ailleurs la plupart des pères de l'Église ont feint d'ignorer ou ont tenté de délégitimer. Il faudra attendre le 19e siècle pour que le mouvement millénariste ou prémillénaristes réapparaissent avec le prédicateur évangélique John Darby et avec l'apparition de la Bible Scofield sous l'autorité du théologien et pasteur Cyrus Scofield. Petit 3. Le post-millénarisme s'est aussi développé. Au cours de l'histoire de l'Église, elle a influencé les Églises catholiques et celles issues de la Réforme protestante, où le protestantisme joua le rôle de religion officielle. Cette interprétation des événements des temps de la fin affirme que Jésus ne reviendra que lorsque l'Église aura établi le royaume de Dieu sur terre. Le monde, en devenant meilleur, amènera le retour de Jésus sur terre. Cette interprétation régit elle aussi en doctrine, a beaucoup influencé l'Église catholique romaine dans l'histoire et depuis Constantin au IVe siècle, elle a souvent justifié sa visibilité et son influence auprès des gouvernements et dans le monde de l'éducation. Elle a aussi beaucoup encouragé les œuvres de charité comme moyen pour amener les âmes à Christ. Comme pour le mouvement amillénariste, le post-millénarisme a adopté la doctrine de la substitution, où l'Église a remplacé Israël. Les amillénaristes croient qu'il y aura un enlèvement afin de vivre le royaume au ciel, alors que les post-millénaristes ignorent l'enlèvement, car si l'Église amène le royaume sur terre, pourquoi y aurait-il un enlèvement? Grand 4, au temps de Jésus. Si nous revenons au temps de Jésus, nous voyons que les disciples étaient tous millénaristes, car de leur temps, tout Israël attendait l'avènement du Messie en gloire, Messie qui devait venir sur terre et régner sur toutes les nations à partir de Jérusalem, comme les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Zacharie et bien d'autres encore l'avaient prophétisé. L'attente d'un règne messianique sur la terre était fortement ancrée dans la pensée juive au temps des disciples. À leur question dans Actes 1, verset 6, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répond de quelle manière il reviendra sur terre, soudainement et dans toute sa gloire, mais il leur laisse entendre que son royaume mettra un certain temps à venir. Lorsqu'Israël est ressuscité en 1948, tous les millénaristes ou prémillénaristes se sont beaucoup réjouis car la rédemption d'Israël et le retour des Juifs sur terre étaient le signe prophétique magistral qui annonçait la proximité du retour de Jésus en gloire pour venir régner sur les nations pendant 1000 ans. Conclusion, attention à l'attitude des croyants à l'égard d'Israël. Pour les croyants qui adoptent l'interprétation amillénariste des Écritures, il y a pour eux aujourd'hui un véritable danger qui les menace. Si nous adoptons cette interprétation des Écritures, cela signifie que nous analysons la Bible et toutes les promesses de Dieu envers les patriarches et envers Israël uniquement sous une approche allégorique et donc symbolique. Et nous devons considérer que Dieu a définitivement rompu ses alliances, ses promesses envers Israël, qui est désormais privé de son appel et de sa destinée. La venue du royaume du Messie d'Israël sur la terre n'est alors qu'une lecture symbolique de l'Esprit qui en fait ne s'adresse qu'à l'Église. Si nous entrons dans un tel raisonnement, ayons le courage d'affirmer que le plan de Dieu et ses promesses dans l'histoire des hommes a tragiquement échoué. Car comment alors témoigner de la réalité de la seigneurie de Jésus en faveur de ce monde perdu, une seigneurie qui vient percuter l'histoire des nations afin de les transformer à sa gloire, alors que nous ne serions que les témoins d'un royaume purement spirituel? Le Premier Testament devient inutile. Il devient trop ancien et désormais dépassé pour que je tente de le comprendre. Comprenons bien ceci. Dieu a été patient envers les nations pendant exactement 70 ans depuis la Shoah. Nous, Église des Nations, nous sommes nous repentis pour y avoir indirectement participé. Oui, certainement, mais seulement une partie de l'Église a alors compris son rôle et sa responsabilité auprès d'Israël. Mais désormais, en entrant dans le jubilé de Jérusalem depuis le grand jour du pardon, depuis le jour du grand pardon, Yom Kippour, du 23 septembre 2015, il n'y a plus de temps. Le Seigneur va désormais abandonner une partie de son Église dans une forme de prostitution spirituelle liée à l'esprit de Babylone. Auparavant, il va libérer ceux qui, en son sein, lui sont profondément attachés, pour que l'on voie la différence entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ces dernières décennies, beaucoup de relectures prophétiques ont été faites par les docteurs et les prophètes pour inviter les églises à se repentir de la théorie de la substitution et de son antisémitisme qui le sous-tend, avec en arrière-fond une fausse lecture des Écritures, d'influence constantinienne et allégorique. En fait, à notre insu et par ignorance, nous nous sommes trop souvent tus lorsqu'il fallait réagir face à tous les tenants de ces mouvements amillénaristes ou post-millénaristes. Il est vrai que beaucoup, par ignorance, participent à ce mouvement invisible qui bientôt posera les fondations de la fausse Église de la fin des temps. Car en effet, nous pouvons désormais l'affirmer aujourd'hui, ce fut hélas vrai durant toute l'histoire de l'Église, le principe d'une fausse interprétation des Écritures est toujours lié à la théorie de la substitution, qui elle-même fait partie de l'un des deux courants théologiques amillénaristes et postmillénaristes. Ce sont en fait deux grilles de lecture identiques, mais l'une spiritualise le royaume, alors que l'autre l'incarne dans le monde. Cependant, ces deux interprétations du royaume pourront se rejoindre car leur source grecque y est identique. Dans un avenir proche, érigé en doctrine, ces deux interprétations se lieront ensemble dans un faux mouvement d'unité pour poser le fondement de la fausse église babylonienne, la grande prostituée de la fin des temps, celle qui sera ivre du sang des martyrs. Oui, l'enjeu est grave pour une partie de l'Église qui, à son insu, est déjà largement entrée dans cette fausse lecture de la Bible, mais peut encore affirmer sa foi dans la lecture hébraïque de la Bible. Il est urgent de se positionner, mais pour combien de temps encore? Deuxième partie, la Jérusalem céleste. Grand 1, Jésus-Christ revient sur terre. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'est intentionnellement que le Saint-Esprit compare l'avènement de Christ au triomphe d'un général romain de retour d'une bataille. Monté sur un cheval blanc, celui-ci défilait avec des légions sur la via sacra qui conduisait sur la colline du Capitole. Mais tandis que le triomphe du général romain faisait suite à sa victoire, le triomphe de Christ précédera un combat où seul le Fils de Dieu peut prévaloir. Le triomphe de Christ sur ses ennemis sera le fruit de son absolue soumission à son Père céleste. À son retour, Christ jugera ses adversaires par sa parole puissante. En châtiant les coupables, Christ se présentera en exécuteur de la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que le prophète Joël 2, verset 11 dit « L'exécuteur de sa parole est puissant ». La parole divine sortira de la bouche de Christ comme une épée aiguë pour frapper les nations. Christ revient en vaillant guerrier, mais il ne revient pas seul. Depuis les noces de l'agneau, l'époux et l'épouse ne font qu'un. Aussi l'Église partage-t-elle chaque moment de la victoire de Christ. Le Fils de Dieu a choisi de revenir sur notre planète au lieu même où il l'a quittée. Dès lors, tous les événements qui précèdent son retour se précipiteront. La moisson et la vendange. Dans Apocalypse 14, verset 2, il est écrit: J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. La bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le jugement de Babylone, Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte: elle est tombée, Babylone la grande. Si le châtiment des armées de l'Antéchrist est impitoyable, leur chef et son adjoint seront les premières victimes de la colère du Fils. Apocalypse 19, versets 20 et 21, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Si deux des saints de l'Ancien Testament, Hénoc et Élie, ont été enlevés vivants au ciel, les deux ennemis de Dieu seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, où le feu ne s'éteint point et dont le Seigneur a parlé. Les armées de l'Antéchrist qui l'auront suivi dans son ultime révolte ne sauraient échapper à la destruction foudroyante qui leur est réservée. Et cela, tous les prophètes l'ont annoncé, en précisant que les méchants devront être frappés avant que le Messie n'entre dans son règne. Psaume 2, versets 4 à 8. Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Joël 2, versets 1 à 11. Sonnez du cor en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était devant lui comme un jardin d'Éden, et derrière lui c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. On dirait un bruit de chars qui bondissent sur le sommet des montagnes. On dirait le bruit de la flamme du feu qui dévore le chaume. On dirait un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des héros, ils escaladent une muraille comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, ils ne quittent pas leur route, nul ne bouscule son voisin, chacun suit sa voie. Ils se ruent au travers des projectiles sans rompre les rangs. Ils fondent sur la ville, courent sur la muraille, escaladent les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel donne de la voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable. Qui pourra le supporter? Il faudra donc que le jugement sans appel d'Apocalypse 19, versets 20 à 21. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent jetés par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Avant que ne vienne l'heure glorieuse du règne millénaire de Christ en Apocalypse 20. Grand 2 du millénium au jugement dernier. Petit 1 avant les 1000 ans. Selon l'Écriture, cinq faits doivent trouver leur réalisation avant le règne millénaire de Jésus. Premièrement, l'Église doit être complétée. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Romains 11, verset 25. Deuxièmement, l'Église doit être enlevée. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, il est écrit: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, Nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Troisièmement, tous les Juifs doivent être rassemblés en Israël. Matthieu 24, verset 32. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Quatrièmement, l'Antéchrist doit se manifester. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Cinquièmement, Satan doit être lié dans l'abîme. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Notons que l'emprisonnement de Satan dans l'abîme s'inscrit aussi dans le cadre des 5 étapes de sa chute. Son exclusion de la présence de Dieu. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre, toi, le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. Son jugement prononcé par Christ à la croix. Jean 12, verset 31. Maintenant c'est le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Son expulsion des lieux célestes sur la terre. Apocalypse 12, versets 7 à 10. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Son emprisonnement pour 1000 ans dans l'abîme. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Sa punition éternelle dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, un ange descend du ciel pour accomplir le verdict de Christ sur Satan. Il saisit le dragon, il le lie pour 1000 ans, il le jette dans l'abîme, il l'enferme, il scelle l'entrée de l'abîme, il libère Satan à la fin des 1000 ans. Le verset 2 d'Apocalypse 20 énonce les quatre noms donnés à Satan pour désigner les quatre fonctions dans lesquelles il agissait. Le dragon, sa puissance politique et religieuse, le serpent ancien, sa ruse et son pouvoir de séduction, le diable, son caractère calomniateur et menteur, Satan, l'adversaire de Dieu et l'accusateur. Petit 2, les 1000 ans. Satan sera donc lié pour 1000 ans. Cette période correspond au règne terrestre de Christ qui est le thème de nombreuses prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. La durée du règne de 1000 ans est mentionnée 6 fois en Apocalypse 20, mais elle n'est pas indiquée ailleurs dans l'Écriture. Cependant, dans le psaume 90, verset 4, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Et en 2 Pierre 3, verset 8, mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Il nous est rappelé que pour le Seigneur, 1000 ans ne peuvent durer qu'un jour. Donc le règne de 1000 ans serait le 7e jour de l'histoire des hommes où Dieu se repose avec nous. Pour ceux qui réfutent le règne de 1000 ans, que l'on appelle les amillénaristes, ils se sont toujours opposés à l'idée selon laquelle Christ rétablira Israël sur la terre avant son retour et qu'il rassemblera tous les Juifs sur leur terre. Ils disent que le Fils de Dieu régnera avec l'Église au ciel d'abord, puis dans la future création dont parle Apocalypse 21 et 22. Par voie de conséquence, Israël n'aurait plus aucun avenir terrestre et l'Église serait l'unique héritière des promesses habituellement réservées au peuple juif. Romains 11, verset 1. Mais Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Et comment justifier la renaissance d'Israël aujourd'hui? D'autre part, et toujours selon cette interprétation, Satan aurait été lié dans l'abîme dès la première venue de Christ, et nous bénéficierions présentement d'une limitation de ses pouvoirs. Ce qui signifie que le millénium a commencé avant le retour de Jésus. Et Apocalypse 20, versets 1 à 3 ferait ainsi allusion à la victoire de Christ remportée sur son adversaire au moment de la croix. Mais pourquoi revenir en arrière? Ce qui est contraire à toute la finalité de ce livre qui nous parle essentiellement du retour de Jésus, alors que les deux chapitres suivants nous font entrer dans la Jérusalem céleste. Il n'est pas possible que le millénium précède le retour de Jésus, car quand Christ reviendra, les justes ressusciteront pour régner avec lui, puis il séparera les fils du royaume des fils du malin. Jugement entre la fausse et la vraie Église, la parabole du bon gré et de l'ivraie, voir Matthieu 13. Il ira Satan dans l'abîme, détruira l'Antéchrist et se révélera à Israël comme le sauveur d'Israël. De plus, il nous est bien dit que Christ viendra à l'improviste, c'est pourquoi il nous est demandé de veiller. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ces victimes de l'Antéchrist ne ressusciteront pas avant la fin de la grande tribulation, car elles devront attendre que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Voir Apocalypse 6, verset 11. Toutefois, cette déclaration d'Apocalypse 20, verset 4 ne comporte aucun caractère restrictif à l'égard des croyants de l'ancienne et de la nouvelle alliance, qui régneront aussi avec le Seigneur selon les promesses reçues en leur temps. Cependant, dans Apocalypse 20, verset 5, il est précisé que les autres morts ne reverront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Ceci signifie que la première résurrection ne concerne que les rachetés sauvés par le sang de Christ, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament qui ont cru en Christ par anticipation, les rachetés de l'Église et les martyrs de la Grande Tribulation. Dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, Paul précise que ce n'est qu'au moment de l'enlèvement que nous recevrons un nouveau corps, devenant ainsi participants de la première résurrection. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Dans Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Quant à la seconde mort qui n'aura point de pouvoir sur eux, c'est un événement postérieur au millénium. Nous en parlerons plus tard. Pendant le millénium, dans Apocalypse 20, verset 6, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Cette phrase est la seule description de l'époque millénaire donnée par l'Apocalypse. Cependant, nous trouvons dans les Écritures de nombreuses références au règne du Messie. Zacharie 6, verset 13. Christ portera les insignes de la majesté. Il régnera avec magnificence, se manifestera comme Messie, c'est-à-dire comme Fils de Dieu à la tête d'Israël. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Osée 3, verset 5. Après cela, les Israélites reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et il pétra les nations avec une verge de fer, selon Psaume 2, verset 9. Israël sera restauré en tant qu'entité historique. Zacharie 14, versets 9 à 14. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. Tout le pays deviendra comme la Araba de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et demeurera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem demeurera en sécurité. Et spirituel, en Zacharie 8, verset 13, « De même que vous avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez bénédiction. Soyez sans crainte et que vos mains se fortifient. Et la gloire de Christ résidera à Jérusalem. » Jérémie 3, verset 17. « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom de l'Éternel, vers Jérusalem. » Et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Israël deviendra le peuple des justes. Ésaïe 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma splendeur. Et toutes les nations seront bénies par lui. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te Celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. les nations seront soumises à Christ. Psaume 2, versets 5 à 9. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Elles se réjouiront, apporteront leur tribut à Jérusalem et jouiront d'une paix abondante. Zacharie 14, versets 14 à 19. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Alors s'il y a des familles sur la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. L'humanité sera au bénéfice de la connaissance de l'Éternel. Ésaïe 11, versets 9 à 10. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations et son emplacement sera glorieux. Le péché ne sera pas supprimé mais contenu. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Et la durée de vie sera prolongée. La durée de la vie sera prolongée. Ésaïe 33, verset 24. La nature sera libérée de la servitude dans laquelle elle a été plongée. Romains 8, versets 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Puis cette nature sera restaurée. Matthieu 19, verset 28, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, et les espèces animales cesseront de se livrer une lutte sans merci. » Ésaïe 11, versets 6 à 8, le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Les saints régneront avec Jésus qui les récompensera en leur confiant des fonctions sacerdotales. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et administrative, Luc 12, verset 42, et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable ?» Et dans Luc 19, verset 17 à 19, il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Ils ne connaîtront plus la mort, Daniel 7, verset 18, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Alors que les citoyens du royaume millénaire, ceux qui seront nés durant ces 1000 ans, la connaîtront encore. Ésaïe 65, versets 19 à 23. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Petit 3, après les 1000 ans. En Apocalypse 20, verset 7, Satan est libéré de l'abîme après les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Pourquoi est-ce précisé, il faut qu'il soit délié après les 1000 ans? Aucune correction n'aura changé le diable. L'emprise qu'il exercera sur les hommes prouvera que le meilleur environnement ne saura réformer la nature humaine déchue, toujours susceptible de faire le mal et de se livrer à Satan. Seule la vie de Christ peut transformer le cœur de l'homme. Gog et Magog sont mobilisés. Avant le millénium, Gog, le prince du Septentrion, c'est-à-dire de la Russie, aura envahi Israël. Après le millénium, Gog, un autre prince mis à la tête des nations des quatre coins de la terre, et Magog, un peuple issu de Japhet dont le nom n'est mentionné qu'en Genèse 10, verset 2, investiront Jérusalem et le camp des saints établi en Israël. Cette nouvelle armée aux ordres de Satan sera représentative de la planète entière et des extrémités de la terre en particulier. Apocalypse 20, versets 9 et 10. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils sont tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Petit 4, le grand trône blanc. Dans Apocalypse 20, verset 11, on voit que le ciel et la terre se dissoudront et disparaîtront. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Puis ce sera le jugement de ceux qui seront nés durant le millénium, de tous les morts de tous les temps, mais il s'agit ici des perdus. Ici la mort et le séjour des morts sont personnalisés. Il sera donné à tous de ressusciter, mais pour le jugement. Des livres furent ouverts. 42 fois il est écrit dans la Bible que l'homme sera jugé selon ses œuvres. Or les livres serviront de base à ces jugements. À part les rachetés, chacun paraîtra devant le grand trône blanc. Puis la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Elle correspond à la condamnation à être jetée dans l'étang de feu et de soufre. C'est le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance. La première résurrection concerne les rachetés de Christ, tandis que la seconde résurrection concerne les incrédules et ceux qui sont livrés à Satan. La première résurrection survient avant le millénium, tandis que la seconde résurrection survient après le millénium. La première résurrection introduit le règne millénaire du Christ, tandis que la seconde résurrection introduit les tourments éternels. La première résurrection sauve de la seconde mort ceux qui en ont bénéficié. La seconde résurrection précède la seconde mort et concerne ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection. Petit 5, la Jérusalem céleste. Après le jugement dernier des âmes devant le grand trône blanc, nous voyons la manifestation de la Jérusalem céleste qui va gouverner la nouvelle création divine, les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité. Cette Jérusalem céleste, qui est une ville lumineuse spirituelle et parfaitement construite par Dieu, va éclairer éternellement ce nouveau monde. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront ni point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. la nouvelle création qui sera éternelle et représentée dans Apocalypse 21 sous la forme d'un triptyque. Le parvis, soit l'ensemble de l'état éternel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le lieu saint, soit la Jérusalem céleste où tous marcheront à la lumière de Christ. Le lieu très saint, soit le fleuve d'eau vive, l'arbre de vie, les serviteurs devant l'agneau, tout ce qui concentre l'action divine dans l'éternité. Pour la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront infiniment supérieurs à l'univers présent. Les éléments qui la composent seront éternels et la justice habitera. La mer n'existera plus dans l'éternité. Pour la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre aura aussi sa capitale universelle. Cette nouvelle Jérusalem procédera entièrement de Dieu. Le Saint-Esprit compare la Jérusalem céleste à une épouse qui s'est parée pour son époux. Il règnera une intimité parfaite entre le Seigneur et les siens. Dans cette relation éternelle d'épouse à époux, les serviteurs de Dieu représentent cette épouse vivant dans cette ville glorieuse, servant son époux Jésus éternellement. Dans Apocalypse 21, verset 3, elle est aussi présentée comme une cité tabernacle. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ce mot exprime l'incarnation. Christ est venu en chair parmi nous, c'est-à-dire qu'il est venu habiter au milieu de nous. Ceci signifie que Dieu habitera en permanence au milieu des siens. Les matériaux seront parfaits. La cité sera tout entière inondée de la lumière de Christ et du Père, et la présence de Dieu sera extraordinairement forte en chacun de ses habitants. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Et comment l'enlèvement se fera-t-il? Donnez les étapes en appuyant votre réponse par des versets bibliques. Qu'est-ce que le temps de la grande tribulation opérée par l'Antichrist? Pour Israël, sera-ce un temps de bénédiction ou de persécution? Pourquoi? Deuxième question. Que va faire Jésus lorsqu'il reviendra régner sur la terre lors de son retour? Expliquez-vous avec des versets bibliques. Troisième question, qu'est-ce que le millénium? Selon le cours, donnez-moi les caractéristiques de la vie pendant le millénium. Quatrième question, qu'est-ce que la Jérusalem céleste? À quoi sert-elle? Expliquez-moi le lien entre l'épouse de Christ et cette ville glorieuse.